avec Benoît Marchal.
Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue.
D'abord l'agenda, c'est ce jeudi, le 14 octobre, qu'a lieu la conférence Still Motion, une conférence que nous sponsorisons. Vous avez découvert l'équipe de Still Motion il y a 15 jours. Still Motion, je le rappelle, c'est un studio canadien qui est vraiment à la pointe dans l'utilisation de la vidéo, ou plutôt de ce qu'ils appelleraient la cinématographie, qu'on réalise avec les réflexes HD. Je crois que si vous intéressez à la photo, à l'évolution de la photo, aux nouveaux outils créatifs, c'est vraiment une conférence à ne pas manquer. Ce point d'agenda fait une très belle introduction pour le sujet de la semaine, puisque je vous propose notre rendez-vous annuel avec Marc Hérault, rendez-vous annuel pour décrypter le marché de la photo. Je l'ai encore vu la semaine dernière, j'étais invité dans un des clubs photo du groupe PSA. Je le vois quand j'anime une conférence ou quand je rencontre des auditeurs de Déclencheur, il y a beaucoup de questions autour du marché de la photo, de l'évolution de la photo et de tous ces nouveaux produits, ces nouveaux usages que l'on ne comprend pas toujours très bien. Ce sont des questions qui ne sont pas vraiment des questions techniques, ce sont des questions qui ne sont pas vraiment des questions créatives, mais je crois que ce sont des questions que légitimement on se pose quand on s'intéresse à la photo. Cette conférence est en préparation du Salon de la photo, je vous ai déjà parlé plusieurs fois du Salon de la photo, c'est du 4 au 9 novembre, porte de Versailles à Paris. Déclencheur vous invite au Salon de la photo, des invitations d'une valeur de 11 euros vous sont offertes sur www.déclencheur.com. Déclencheur vous accueille au Salon de la photo tous les jours sur le stand de l'Agora du Net. Comme l'année dernière, nous reprenons un cycle de présentations, ça a eu beaucoup de succès. On y amène des sujets dont on parle beaucoup sur Internet et dont on ne parle peut-être pas assez dans des salons, dans des conférences. Donc c'est l'occasion de venir découvrir quelque part les discussions d'Internet au Salon de la photo. Enfin, Déclencheur vous guide puisqu'on organise une visite guidée du Salon de la photo. Si vous visitez le salon le samedi 6, eh bien rejoignez-nous. Je crois que c'est l'occasion de profiter de nos contacts pour ouvrir quelques portes intéressantes. Bonjour Marc.
Bonjour Benoît.
Donc, je suis avec Marc Hérault, qui est secrétaire général du CIPEC. C'est la deuxième, troisième année qu'on fait ce qu'on va bientôt appeler notre chronique annuelle.
Hein. Absolument, troisième.
Troisième année, notre chronique annuelle sur le marché de la photo en France, puisque le CIPEC, en préparation du Salon de la photo, publie son enquête Ipsos. Et cette année, vous êtes même allé plus loin, vous avez fait une conférence autour du sujet de la photo, le futur de la photo. On va en reparler dans quelques instants. L'enquête Ipsos. Donc, le principe de l'enquête Ipsos, c'est d'essayer de sentir l'évolution de la photo en France, l'utilisation de la photo, l'évolution du marché, c'est ça ?
Effectivement, c'est de comprendre ce qui se passe aujourd'hui chez nos compatriotes photographes. C'est important, on fait cette enquête année après année depuis 9 ans. On vient de vivre la décennie durant laquelle les choses ont changé d'une façon absolument incroyable. Il y a 10 ans, il se vendait 140 millions de films argentiques par an en France. Il va s'en vendre 3-4 millions cette année.
De 140 millions à 3 millions.
À 3 millions, en moins de 10 ans. C'est comme si sur le marché des voitures, je ne sais pas combien il se vendait de pneus il y a 10 ans, et qu'aujourd'hui, les voitures n'aient plus de pneus. Voilà. Le marché de la photo a vécu la même révolution. Cette révolution-là, il est intéressant de bien comprendre quelle est l'évolution des pratiques photographiques des Français. C'est ce à quoi répond Ipsos.
Alors, les faits saillants, une première chose qui n'est pas directement dans l'enquête Ipsos, mais qui m'a étonné, c'est le croisement entre le renouvellement et le premier appareil numérique.
Alors effectivement, c'est la 2010, c'est la première année où la principale motivation d'achat d'un appareil numérique n'est plus un changement de technologie, n'est plus de passer de la photo argentique à la photo numérique, mais en 2010, la première motivation est un renouvellement de son premier appareil numérique.
Voire de son deuxième ou de son troisième.
Voire son deuxième ou son troisième. Mais la motivation qui était la principale jusqu'en 2009, qui était je passe de l'argentique au numérique, n'est plus la première motivation. La première motivation est maintenant le renouvellement.
Et on parle toujours largement là, de vente de compact qui reste prioritaire par rapport aux réflexes et aux appareils.
Alors effectivement, un peu juste en amont d'Ipsos, effectivement, hier, dans cette conférence Photofocus dont tu parles, Benoît, on a présenté les chiffres du premier semestre 2010, qui étaient intéressants, puisque contrairement à peut-être à toute attente et contrairement à ce que le contexte économique pourrait nous faire penser, on est face à un comparatif 2009 qui a été 2009 une bonne année pour le marché de la photo, pour le marché des appareils photo, puisque 2009 a montré une progression de plus 4% en volume par rapport à 2008, alors qu'on était en pleine crise économique. Et ce premier semestre 2010 montre encore une progression, puisqu'on est à plus 5% au total appareil numérique. Et on est sur une base annuelle. Pour 2010, on devrait finir à 5 200 000 appareils environ. Alors, sur ces 5 200 000 appareils, toujours beaucoup de compacts, environ 85% du marché. Et de nouveau, une tendance positive pour les compacts. On est sur un marché depuis 10 ans où on a dit énormément de bêtises et de prévisions qui sont à peu près toutes avérées fausses. Donc on a pensé que le marché compact s'était terminé et que c'était fini et qu'il allait s'effondrer et que le marché était mature et que c'était terminé. Ben, pas de chance, le marché des compacts continue de progresser. On est à plus 4 pour l'instant. Il est vrai que le segment qui progresse le plus encore et toujours, c'est le marché des réflexes. On est à plus 17%, mais, attention, ce marché des réflexes a encore un potentiel de progression, puisqu'en 2010, le marché des réflexes représentera environ 10% du marché total des appareils numériques. Du temps de l'argentique, les appareils réflexes représentaient 12% des ventes d'appareils. Donc on a encore un petit matelas de progression, au-delà de l'attrait qu'on voit bien dans notre baromètre Ipsos pour les technologies réflexes et pour les appareils de haute qualité, on a encore un réservoir de progression qui est la part naturelle des réflexes sur le marché des appareils numériques.
Dans les informations que tu donnes là, est-ce que vous avez mesuré séparément la part des compacts à objectifs interchangeables, appareils hybrides ?
Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. On parle là des chiffres du premier semestre 2010, où il y avait une offre hybride, mais le marché était vraiment naissant. Et donc, ce n'est pas encore, nous, au CIPEC, un segment qu'on suit. On va le suivre, évidemment, puisque l'offre s'est démultipliée d'une façon incroyable de ces fameux appareils hybrides. Et les ventes consommateurs vont suivre. On a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que c'est un segment porteur. Donc, c'est une chose qu'on va suivre. Pour l'instant, ce segment hybride est inclus dans le marché des réflexes.
D'accord. Et alors, l'argentique qui est moribond, on l'a compris. Deuxième chose qui était très étonnante, c'est qu'on vend maintenant plus de jetables que de pellicules.
Alors, moribond, je te reprends un tout petit peu, Benoît.
Tu m'as dit 3 millions.
Non, c'est devenu un marché de niche. Effectivement, il va se vendre, bon an, mal an, 3 millions de films et un petit peu plus d'appareils jetables de prêt-à-photographier, effectivement. Et ça, c'est aussi 2010, c'est une année charnière. Pour la première fois, il va se vendre en France plus d'appareils jetables que de films argentiques. C'est peut-être aussi un signe, je veux dire, c'est que le marché des appareils jetables a régressé, mais moins vite que le marché du film, peut-être parce que les appareils jetables représentent un usage qui a encore sa raison d'être sur le marché pour des gens qui ne souhaitent pas s'équiper en appareil numérique, n'ont pas un téléphone qui prend des photos, ou sont d'un âge où il est quand même plus raisonnable de confier un appareil jetable qu'un appareil numérique. Donc, je crois que le marché argentique, photo argentique classique, est clairement une niche aujourd'hui. Est-ce qu'il va disparaître ? Je ne sais pas. Mais bon, 3 millions de films, c'est devenu anecdotique. C'est intéressant de constater quand même que les appareils jetables ont encore leur place sur leur marché. Ces 3 millions de films argentiques, c'est intéressant de les rapprocher d'une donnée que nous donne Ipsos aujourd'hui, puisque Ipsos nous donne le taux d'équipement des foyers en appareils numériques et en appareils argentiques. Pour les appareils numériques, la pénétration dans les foyers se stabilise aux environs de 70%. Et le taux d'équipement en appareils argentiques dans les foyers est de 53%. Inférieur aux appareils numériques, mais quand même 53%. 53% des foyers, c'est environ 12 millions d'appareils encore présents dans les foyers. Est-ce qu'ils sont actifs ? La réponse est clairement non, puisque nous avons 12 millions d'appareils dans les foyers et 3 millions de films. Il est clair que dans ces 12 millions d'appareils, l'énorme majorité est dans un placard, dans un tiroir, et n'est plus sortie de ce fameux tiroir depuis de nombreuses années. Mon réflexe que je me suis acheté, je me souviens bien, puisque c'était l'année où je me suis fiancé, un réflexe argentique. Il fonctionne encore très bien, mais il n'a pas fonctionné depuis 7-8 ans. Il n'a pas vu un film depuis 7-8 ans. Je crois qu'il n'a pas vu la lumière depuis autant de temps. Mais jamais je le jetterai. Je fais partie des 53% des foyers qui ont encore leur appareil argentique, mais qui ne s'en servent plus. Mais dans 10 ans, j'aurai toujours cet appareil réflexe. Je ne te dirai pas la marque Benoît, mais un très bon appareil réflexe. Mais je ne le jetterai pas, je le garderai. Il ne me sert à rien, mais je le garde.
C'est voilà. Plus qu'un souvenir, ça montre l'attachement émotionnel.
Absolument.
On a déjà évoqué l'enquête Ipsos, après les chiffres du marché, l'enquête Ipsos. Un des éléments fondamentaux cette année, c'est le fait que vous avez constaté l'individu, non seulement il a un appareil photo à lui, mais il en a même plusieurs.
Alors effectivement, jusqu'à il y a 3 ans, on a analysé ce marché photographique avec des yeux argentiques, je dirais, à savoir qu'on raisonnait en termes de foyer, puisque historiquement, c'était souvent le chef du foyer qui avait l'appareil argentique, l'appareil photo dans la famille et qui se servait de l'appareil photo. On s'est rendu compte qu'avec le numérique, il fallait faire évoluer nos méthodes d'analyse et donc on est passé à une enquête individuelle. Clairement, on s'est aperçu, première chose, c'est qu'il n'y avait plus un usage foyer de l'appareil, mais bien un usage individuel avec des pratiques photos tout à fait individualisées selon les générations. Et ce qui apparaît encore plus clairement au-delà de cette utilisation individuelle, c'est que maintenant, chaque individu dans le foyer, je dirais pas, a pas forcément plusieurs appareils, mais a plusieurs outils pour photographier. Il a son appareil, que je sois jeune, que je sois senior, que je sois lycéen ou jeune parent, j'ai mon appareil à moi, que j'utilise pour certaines occasions, et j'ai en plus d'autres outils photographiques pour faire des photos dans ma vie. Et évidemment, ce deuxième outil que tout le monde a, de plus en plus, c'est ce fameux téléphone, appareil photo, voire smartphone.
Et on fait quoi avec celui-là ?
Alors, c'est intéressant puisque on a longtemps pensé, et peut-être qu'on avait raison de le penser, aujourd'hui ce n'est pas le cas, peut-être un jour ça sera le cas, que ces deux outils photographiques étaient en concurrence et que l'un allait remplacer l'autre. Clairement, les chiffres montrent aujourd'hui que les deux appareils, les deux outils photographiques, ces deux outils de prise de vue sont totalement complémentaires. Ils ont chacun leur propre utilisation. Pour les moments importants de la vie, pas seulement un ou deux événements dans la vie, mais pour les choses qui comptent, je fais confiance à mon appareil photo. Et puis, il y a toutes ces nouvelles prises de vue que je peux faire dans la journée, que j'aurais jamais fait avant parce que je n'avais pas mon appareil photo avec moi. Aujourd'hui, j'ai mon téléphone et c'est des nouvelles occasions de faire des photos qui sont complètement complémentaires. Je fais confiance pour les moments importants à mon appareil photo traditionnel numérique. Par contre, dans la journée, j'ai 1000 occasions de faire des nouvelles photos que je vais faire avec mon téléphone et avec mon smartphone, que je ne conserverai pas forcément, mais qui seront plus des photos pour communiquer, alors que les photos avec mon appareil photo seront plus des photos que je conserverai en termes de souvenirs. Communiquer, c'est une photo que je vais très vite transmettre avec mon smartphone. C'est pour ça que d'ailleurs l'utilisation de la fonction photo se développe énormément dès que l'appareil est connecté à un smartphone, puisque je prends une photo, c'est pas forcément pour la conserver, mais c'est d'abord pour l'envoyer tout de suite, pour communiquer avec une autre personne.
Sur Facebook, sur Twitter, sur par email, etc.
Voilà, absolument, comme MMS, sur Facebook, absolument. Ce n'est pas une photo que je vais forcément conserver, c'est une photo qui va me permettre de communiquer. Alors que la photo que je vais faire avec mon appareil photo, c'est plus pour moi, quitte à les partager ensuite, mais c'est d'abord ma propre vie que je fais rentrer dans une boîte.
Ce que tu dis me rappelle la conférence Photofocus. Vous aviez invité Joël de René. Il a commencé sa conférence en disant qu'il y avait une boucle entre les pratiques et les outils. C'est-à-dire que les nouveaux outils créaient de nouvelles pratiques et les nouvelles pratiques amenaient à créer de nouveaux outils. Parce que j'ai ce téléphone qui est connecté et qui peut faire des photos, je fais des choses que je ne faisais pas avant. En fait.
Absolument. C'était effectivement un des enseignements intéressants de cette conférence de Joël de René, qui est un futurologue. Alors le mot futurologue fait peur, puisqu'on se dit qu'il va nous annoncer des choses qui n'arriveront jamais et que c'est le professeur Tournesol. En l'occurrence, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de réaction. Il y a sûrement des choses qui n'arriveront jamais, mais il y a beaucoup de choses que Joël de René nous a présentées hier qui arriveront dans quelques années. Effectivement, Joël de René a beaucoup insisté et a pointé du doigt un petit peu ce que les fabricants d'appareils photo sont aujourd'hui capables de proposer et ce que les fabricants de téléphones et les opérateurs téléphoniques proposent de leur côté. Où la force de cet objet et toutes les applications que je vais faire rentrer dedans et qui vont me permettre de créer de nouveaux usages photographiques. Et c'est vrai qu'il a opposé cette boîte, il faut l'appeler Apple puisque ce sera plus simple, qui est pourtant un système qui est réputé pour être fermé, et pourtant c'est un objet, l'iPhone, on va parler clair, dans lequel je peux faire rentrer beaucoup en permanence de nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités. Et il opposait ça aux fabricants d'appareils photo, qui sont incontestablement très en avance d'un point de vue technologique et qualité de l'image, mais qui par contre sont des systèmes un petit peu fermés. Et Joël de René pointait du doigt la nécessité sans doute pour les fabricants d'appareils photo d'imaginer des systèmes qui puissent s'enrichir plus facilement. Aujourd'hui, j'achète un appareil photo, c'est vrai qu'il est un petit peu fermé et son évolution est plus compliquée sans doute que ce que me propose cette fameuse société californienne avec son smartphone.
Il y a eu des mots durs hier, mais il disait le compact est la technologie d'hier, il ne sait pas où il est, il ne sait pas vers quoi je pointe et il n'est même pas connecté. Alors que l'iPhone, certes, il a un horrible objectif, et il n'a pas une très bonne qualité d'image, mais il a tous ces autres éléments.
Non, mais c'est intéressant, effectivement, Joël de René était dans son rôle, je veux dire, un petit peu d'aiguillon, et notre marché, heureusement, si notre marché se porte finalement aussi bien en termes d'appareils photo, c'est qu'il a eu plein d'aiguillons, il y a eu Joël de René hier, mais bien avant, il y a eu ces fabricants de téléphones qui ont servi d'aiguillons technologiques, et si aujourd'hui les appareils photo sont tellement en avance technologiquement sur les autres outils photographiques comme les smartphones, c'est qu'ils ont été titillés technologiquement. Ce que Joël de René voulait dire, c'est que, et je pense qu'il faut faire attention, Joël de René ne voulait pas dire, vous les appareils photo, vous êtes morts, c'est les smartphones qui ont raison. Et
très
vont,
clairement, oui, c'est pas ce qu'il voulait dire.
C'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, attention, vos appareils photo, vous avez une incroyable technologie à l'intérieur, mais il vous manque des fonctionnalités importantes. Aujourd'hui, votre appareil photo est trop fermé, n'est pas ouvert vers l'extérieur, n'est pas connecté, ne sait pas où il est parce que le GPS n'est pas encore, même si on en voit un petit peu plus, mais pas encore suffisamment. Donc c'est vrai que les fabricants d'appareils doivent se bouger, et je pense que Joël de René a eu raison de les bouger, comme dans une vraie mêlée de rugby où il faut bouger l'adversaire, parce qu'on a beaucoup à apprendre d'autres marchés pour faire progresser ces appareils qui sont peut-être sans doute encore aujourd'hui un petit peu fermés. Mais je fais confiance aux fabricants qui savent réagir assez vite. Et ces 10 dernières années ont montré quand même qu'ils ont su avancer. Quand vous, Benoît, tu prends un appareil, les premiers appareils numériques dans les années 2000-2002 et ce qu'on a aujourd'hui en 2010, il s'est passé des choses.
Juste pour compléter ce que tu viens de dire et terminer sur la conférence, il a eu des mots un peu forts à certains moments comme aiguillon, mais il a également répondu à certaines questions d'ailleurs qui disaient « oui, mais où est la créativité, etc. » dans tout ça. Est-ce qu'on ne parle pas de gadgets ? Quand on parle d'intégrer un GPS, d'intégrer une boussole dans un appareil photo. Et il a dit, les outils technologiques ne sont pas des gadgets quand la société sait se les réapproprier.
C'est intéressant, puisque tu as pu le noter dans la salle, il y avait d'une part sur scène Joël de René, qui paraissait un peu comme monsieur technologie, ayant oublié l'aspect émotionnel de la photo. Et puis dans la salle, il y avait des... S'ils m'entendent, ils ne seront pas contents. Des anciens de la photo, mais j'en fais partie, je veux dire. C'est notre génération, je veux dire. Donc il y avait un petit peu un conflit en disant on me présente du tout technologique, mais est-ce qu'on n'oublie pas dans la photo toute la partie émotionnelle, le cœur de la photo? Est-ce que cette avalanche de nouvelles technologies me fait pas oublier finalement pourquoi j'appuie sur un bouton à un moment pour faire une photo? Et je pense que Joël de René a eu raison de nous dire qu'il y a un moment le tri va se faire dans ces nouvelles technologies. Et que les vraies bonnes technologies, nous photographes au sens large d'ailleurs, on saura s'approprier les bonnes technologies pour les mettre au service de notre créativité et émotion qui reste notre premier moteur pour faire des photos.
Avec nos deux matériels photo, donc avec notre smartphone et notre appareil, on va tous se retrouver début novembre au salon de la photo. On va faire des photos qu'on mettra tout de suite pour dire « Regardez, j'y suis, je suis sur le stade de l'Agora du Net ». Donc le salon cette année, c'est du 4 au 8 novembre.
Absolument, 5 jours, porte de Versailles, dans le hall 4. Un salon qui se présente bien, qui se présente très bien, avec 25% de surface en plus. Ce qui veut dire de nouveaux acteurs, de nouveaux stands, de nouvelles marques. Tout le monde est là. Cette fois, vraiment, la grande famille photographique au sens large est là. Ça se présente très bien. Je veux dire, en termes de préinscription, puisqu'on peut très facilement se préinscrire sur les nombreux sites partenaires du Salon de la Photo, on constate aujourd'hui un taux de préinscription extrêmement important. Pour rien vous cacher, à un mois du Salon, il y a deux fois plus de préinscrits que l'année dernière, qui avait déjà été une grande année pour le Salon de la Photo. Donc, on s'attend à un nombre important de visiteurs. On va faire notre maximum pour accueillir le mieux possible nos invités, puisque c'est comme ça qu'on considère les personnes qui vont venir au salon de la photo. Donc c'est une de nos grosses préoccupations, c'est de bien accueillir tous ces visiteurs qui vont venir, et je pense qu'ils seront très très nombreux cette année.
J'aime à le dire parce que c'est quelque chose dont on m'a beaucoup fait la remarque l'an passé. Le salon de la photo, c'est pas juste des objectifs et des boîtiers. Il y a ça, bien sûr, donc c'est aussi l'occasion de se dire « tiens, je vais aller voir le nouveau matériel que j'ai lu, dont j'ai entendu parler, je vais pouvoir aller le voir, je vais pouvoir aller le tester, je vais pouvoir aller le toucher ». Il y a aussi l'exposition Willy Rizzo, il y a aussi des présentations sur le stade de l'Agora et sur d'autres espaces, il y a aussi des lieux d'échange, enfin c'est vraiment ça, c'est pas juste une foire au matériel.
C'est beaucoup plus que ça, effectivement il y a l'Agora du Net, ça nous a fait vraiment plaisir l'année dernière de voir le succès de ce projet, et c'est vrai que Benoît, tu es au cœur de ce succès, et on est absolument ravis que cette année 2 se présente aussi bien. Cette Agora du Net est assez symbolique de ce dont on veut faire ce qu'on veut faire du salon de la photo. Il y a l'Agora du Net, il y a aussi les grandes conférences dont on a agrandi largement la salle de réunion, ces grandes conférences, puisqu'on a bien vu l'année dernière, la salle est pleine en permanence. On a de très grands photographes qui vont venir cette année, Sarah Moon, Reza, plein d'autres. Donc c'est aussi un endroit où on échange. Et tu as parlé de l'exposition Willy Rizzo. Pour la première année, le salon de la photo produit une exposition. On va découvrir, puisqu'il est peu connu en France, et en tout cas pas suffisamment connu, Willy Rizzo, un photographe absolument incroyable, qu'on va voir ses images, tout le monde les a vues. C'est un photographe qui a maintenant un âge tout à fait respectable, puisqu'il a dépassé les 80 ans. Mais c'est un photographe qui a photographié le monde entier depuis 60 ans. Et pour l'anecdote, c'est même un photographe, Willy Rizzo, qui a inspiré un personnage de Tintin dans les bijoux de la Castafiore. Le paparazzi dans les bijoux de la Castafiore, qui s'appelle, je crois, Rizzotto. Hergé s'est inspiré de Willy Rizzo pour ce photographe.
Et on le
Donc
découvrira.
C'est une légende.
Et on le découvrira la semaine prochaine sur Déclencheur, puisqu'on aura une grande interview de lui pour préparer justement la visite de son exposition. Ok, donc on se retrouve, Marc, au Salon de la Photo. Merci donc pour ce petit tour sur le marché de la photo. Et à l'année prochaine, alors.
À l'année prochaine, sur un marché où il y aura encore plein de nouveautés, plein de nouvelles choses. Donc, rendez-vous au Salon.
Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'émission vous a plu, je vous invite à vous abonner à Déclencheur. L'abonnement est gratuit. Il permet tout simplement d'être tenu au courant de la sortie des nouvelles émissions. Et nous supportons de nombreuses méthodes d'abonnement, depuis l'email jusqu'à Twitter, en passant par iTunes, Facebook et le RSS, et donc Google Reader et tous les autres agrégateurs. À bientôt sur www.déclencheur.com.